de rejoindre Kotkaniemi. C'est fait, le tir.
Premier essai, les buts. Patrick Mahomes lance.
Une nouvelle semaine, un nouvel épisode de Casse à casque. Et oui, on est de retour, Will et moi, pour un autre podcast. La semaine passée aussi, on était les deux. Vous le savez peut-être pas nos auditeurs, mais notre autre collègue est planificateur financier. Donc, c'est le temps des REER pour tout le monde. C'est également pour Thomas. Donc, on devrait le revoir dans le prochain épisode. Mais pour l'instant, vous avez encore la chance d'être... plus intime avec seulement deux animateurs.
Ouais, effectivement. Je pense que Tom va revenir à partir de la semaine prochaine. Là. Arrêtez de vous inquiéter. Vous nous envoyez des messages à savoir est-ce que Tom est mort, est-ce que Tom a la COVID. Mais non, il est juste dans la saison derrière.
Un peu moins excitant que les deux autres options. Pas que ça aurait été excitant qu'il soit mort, mais...
Je pense que je préfère qu'il soit dans ses rires que de décéder.
Clairement. On va le prendre la saison d'erreur à la place. Donc, parfait. Sans plus tarder, est-ce que tu veux suivre avec les nouvelles de la semaine?
Oui, certainement. Donc, on a une semaine pas très chargée, mais on a quand même quelques nouvelles qui sont intéressantes. Je vais commencer du côté de la NFL parce que c'est rare, par les temps qui courent, qu'on a de quoi de bon à se mettre sous la dent du côté de la NFL. Donc, c'est des rumeurs principalement de transactions de changement d'équipe, mais au niveau de Juju Smith-Schuster, le jeune receveur des Steelers de Pittsburgh, il aurait mentionné aujourd'hui en entrevue qu'il était plus qu'intéressé à re-signer avec son équipe, donc il aimerait poursuivre un peu dans l'histoire qu'il est en train de créer avec Pittsburgh, il aimerait ça être devenir comme un receveur de franchise et de rester à long terme. Naturellement, par exemple, je pense que ça pourrait être réaliste de dire que Pittsburgh n'ont peut-être pas le budget pour le garder avec l'équipe. Donc, je voulais voir si tu n'avais pas entendu des rumeurs, des équipes qui étaient intéressées à Juju ou simplement si c'est statu quo de ton côté.
C'est certain qu'il va y avoir des équipes qui vont être intéressées à Juju. Je pense que par contre, avec ses rants de l'année passée sur TikTok avant chaque game, on l'a vu, ça n'a pas été unanime dans le vestiaire que tous les joueurs aimaient ça. Il y avait plus de jeunes joueurs qui étaient pour ça, parce qu'on s'entend que je pense pas que Big Ben fait des TikTok. Mais du côté des Steelers, on a toujours de la difficulté dans les dernières années à garder les joueurs qui sont un petit peu plus mouvementé du côté caractère, je dirais, que ce soit Antonio Brown, Le'Veon Bell. Donc, j'ai hâte de voir quelles décisions qu'ils vont prendre par rapport à Juju. Je suis certain qu'avec le talent et la jeunesse qu'ils vont essayer de le signer. Quand on parlait d'Antonio Brown, il s'en tenait plus vieux. Lorsqu'on parlait de Le'Veon Bell, pas qu'il était vieux, mais un running back, même à un âge qui n'est pas trop élevé, va avoir une moins haute valeur due à la position. Donc, je pense qu'ils vont le re-signer. S'ils ne décident pas de le re-signer, je pense qu'il va clairement avoir des preneurs ailleurs. Juju, on l'a pu le voir dans ses premières saisons, qui était très dynamique. C'est sûr que l'an passé, ça n'a pas été sa meilleure saison. Mais je pense que même s'il y a Chase Claypool, Deontay Johnson, l'émergence de d'autres jeunes receveurs, ce n'est pas les mêmes rôles nécessairement que Juju a. Juju a toujours plus drive dans le slot. Donc, les autres, plus des receveurs qui vont aller stretch le field. Donc, j'aimerais le voir retourner avec les Steelers, mais ça reste à voir. Puis, je pense que les chances sont qu'il va re-signer avec les Steelers aussi.
Je partage ton opinion. En fait, je crois qu'ils vont tout faire pour le garder, mais comme tu l'as mentionné, certainement qu'une équipe pourrait l'ajouter là, à son arc. Ce serait un excellent slot receiver pour plein d'équipes qui ont déjà peut-être des menaces plus sur le long jeu, mais moins en fait là, pour des courts gains. Ça nous mène en fait à la deuxième nouvelle.
On a vu les Raiders libérer du salaire aujourd'hui coupant Tyrell Williams, qui va leur sauver 10 millions sur le cap. Donc, clairement qu'il y a des équipes comme ça qui pourraient être intéressées et qui ont l'espace sur le cap pour aller le chercher.
Absolument, on sait que les Raiders, qu'on ait vu une saison absolument décevante, un fiasco du côté de leur recrue, ça n'a quand même pas été ce qui était espéré, là, autant au niveau de Ruggs que Edwards. Donc, Effectivement.
Mais Bryan Edwards, je pense qu'il y avait moins d'attentes. Du côté de Ruggs, il y a beaucoup d'attentes lorsque tu es le premier receveur qui est sorti. On a toujours vu quand même des décisions spéciales du côté des Raiders. Ils font vraiment à leur tête. Ils ne vont pas aller écouter les médias ou n'importe qui. T'sais, tout le monde sur leur board pratiquement avait Jerry Jeudy ou CeeDee Lamb avant Ruggs. Eux, ils ont décidé d'y aller avec Ruggs. C'est la vitesse, c'est l'avenir de la ligue. Mais on l'a vu, même Tyreek Hill, ça n'a pas été sa première année qui était capable d'exploser, puis c'est plus un type de joueur comme ça. Donc, j'ai hâte de voir ce que Ruggs va être capable de faire dans les années prochaines.
Bien, certain. Puis si, justement, on ajoute Juju avec Darren Waller, Ruggs, mais là, quand l'attention commence à être déviée un peu de Ruggs, puis peut-être qu'on va être capable d'avoir des gros jeux comme on voit avec Tyreek Hill, définitivement. Ça nous mène, en fait, à notre deuxième nouvelle slash rumeur de la NFL. C'est au niveau des Jets, c'est pas l'équipe la plus fascinante, mais c'est l'équipe préférée de notre gars de son. Donc, on va dire que c'est une excellente équipe. Mais les Jets, en fait,
va tout couper au montage. Il va prendre excellente, il va dire oui, c'est les Jets, c'est une excellente équipe.
Les Jets, meilleure équipe de la ligue. Il va prendre des morceaux de ma voix au courant des derniers épisodes, puis il va comme changer mon speech complètement. Fait que, mais non, la nouvelle équipe de direction des Jets, ils ont fait un peu de remaniement de personnel à l'interne et puis ils sont intéressés à évaluer les options qui s'offrent à eux au niveau du corps arrière dans le draft. Et donc, ça voudrait dire que, encore une fois, Sam Darnold serait dans le siège chauffant, le hot seat. Je pense pas que l'expression se traduit en français, là, mais... Et puis, plusieurs équipes pourraient être intéressées. Je lisais, en fait, des potentiels. Je pense que les Patriots pourraient être une belle destination pour Darnold, surtout si le prix n'est pas trop élevé. Est-ce que tu penses, parce qu'on sait les Jets vont avoir un excès. Les Jets sont-ils bien placés au repêchage?
Deuxième,
hein, c'est ça, un excellent choix. Est-ce que tu penses que...
Beaucoup de monde les voit prendre Zach Wilson. De mon côté, maintenant on peut voir que c'était pas le cas, mais dans le draft de Darnold, où il y avait Baker Mayfield, Josh Allen, Josh Rosen, Lamar Jackson, à ce moment-là, c'était mon prospect préféré côté corps arrière. On peut pas vraiment dire si c'est seulement de sa faute ou c'est la faute de l'équipe, comment ils l'ont fait évoluer au sein de l'organisation, qui a donné qu'est-ce qu'on a présentement. Un choix de deuxième ronde, qui après, pas de deuxième ronde, un choix de deuxième overall, que déjà après quelques années, on laisserait partir pour un autre choix de deuxième overall, qui serait soit Justin Fields ou Zach Wilson, on pourrait croire. J'aimerais voir Sam Darnold ailleurs parce que, comme je dis, je le voyais en très haute estime en sortant du draft. Il s'entraîne à chaque été avec Josh Allen, ses deux bons amis. Je pense qu'il pourrait avoir la même type d'évolution que Josh Allen a eu cette année s'il était capable de trouver une organisation qui était capable de bien l'entourer et qui était capable de le faire progresser. Alors, on le dit, que ce soit avec Brian Daboll ou le coach de carrière du côté des Bills, je pense que c'est possible de faire une énorme amélioration pour un carrière quand il est encore jeune d'une année à l'autre. Et avec Carson Palmer qui passe tous ses étés avec, je pense qu'il peut aussi continuer de progresser. Il a seulement besoin d'un changement d'allure. Clairement qu'il y a des équipes qui seraient preneurs, des équipes qui sont plus bonnes en draft, mais qui ont quand même besoin d'un carrière et qui peuvent avoir la chance d'avoir quelqu'un qui est autant bon que Sam Darnold peut l'être. Je pense que ça peut être un style. T'sais, on peut penser à des Panthers que oui, ont pris Bridgewater, mais justement, est-ce que Darnold y aurait besoin de se mettre derrière un vétéran puis de commencer à progresser d'année en année pour être prêt? Les Patriots, je suis d'accord, ça serait pour moi une situation idéale parce que les Patriots, où qu'ils sont placés, n'auront pas accès à un carrière. Cam Newton, on l'a vu, ça n'a pas fonctionné. Ils ont été habitués à un pocket passer, quelqu'un qui est plus du style de Sam Darnold, donc je le verrais fitter dans le scheme de Belichick. C'est sûr, c'est toujours difficile des échanges interdivision, mais ça pourrait être le fun à voir.
Définitivement, la valeur de Darnold a peut-être chuté un peu au courant de la dernière année. Statistiquement parlant, il a connu sa pire saison avec un passer rating de 72.7 à travers 12 départs. Il a complété 59,8% de ses passes avec une moyenne d'à peu près 213 verges par match, 45 touchés, 39 interceptions en carrière. Donc, c'est peut-être pas le début de carrière qui était promis, mais effectivement, je partage ton avis que c'était un prospect plus qu'intéressant. Ça a été un gars qui a eu beaucoup de succès au college, puis on s'attendait à beaucoup mieux. Bon, on ne saura jamais si c'est complètement de la faute des Jets ou si c'est pas un peu de sa faute. En fait, on va le savoir s'il est échangé dans une meilleure position puis qu'il est capable, il est mis en position de compétitionner. L'avenir nous le dira, mais définitivement, je pense qu'un mouvement, ce serait sain en fait pour les deux parties, autant l'organisation que le joueur. Passons du côté de la NBA. Seule nouvelle dans la NBA, c'est le divorce entre les Rockets et DeMarcus Cousins. L'histoire de sa carrière, il a été blessé pas mal, puis finalement l'équipe a décidé de s'en départir. Il pourra donc signer avec l'équipe de son choix dans les prochaines semaines. Peut-être une équipe qui pourrait aspirer au grand titre. On le sait, il y a déjà...
Justement, la semaine passée, on a parlé que les Raptors avaient besoin d'aide au centre. On les a pas vus aller faire un move comme on parlait. Ça pourrait être intéressant. C'est certain que lorsqu'on a un joueur comme ça qui n'est jamais capable de rester en santé, ça peut être plus difficile. Même du côté des Lakers, qui ont pris l'ancien des Raptors avec Mark Gasol, en ce moment, ça ne fonctionne pas très bien. On parle que du côté des Lakers, il y a pratiquement juste LeBron et Davis en ce moment qui jouent bien depuis le début de la saison et qui est quand même des carry. Donc, que ce soit Alex Caruso ou Mark Gasol, ça ne va pas très bien. Il y a Schroeder que ça va un petit peu mieux, mais clairement qu'eux aussi pourraient avoir besoin de l'aide au centre et avec les autres options qu'ils ont, ça pourrait être bon de juste quand même se mettre un backup. Mais c'est sûr, j'aimerais plus le voir aux Raptors. L'équipe qui va le prendre, clairement, il faut qu'ils soient capables d'avoir quelqu'un d'autre qui est capable de le remplacer en cas de blessure. Si ce sont pour faire une run, parce que tu peux pas mettre tous tes œufs dans le même panier avec DeMarcus Cousins, mais ouais. C'est certain que ça peut être payant.
Effectivement. Passons maintenant du côté de la Ligue nationale de hockey. Cherchez pas Artemi Panarin sur la glace. Présentement, il est chez eux. Il a décidé de prendre...
Il est parti avec Patrick Kane.
ça a disparu. On les verra plus. Mais non, il a décidé de prendre une petite période de congé. Probablement qu'il aimerait être sur la glace. Là, c'est peut-être pas une partie de plaisir de son côté, mais il y a une histoire qui aurait fait surface, en fait, des allégations de son temps en Russie où il y aurait eu des altercations avec une femme de 18 ans dans un bar. Et puis, les Rangers ont quand même joué du bon PR. Ils ont dit que l'histoire avait aucun sens, que c'était pas fondé et qu'ils étaient de tout support avec leurs joueurs. Mais justement, ils lui ont permis de prendre un peu de temps pour lui pour gérer cette situation-là. Ça doit quand même pas être... Ça va pas être super le fun en plein début de saison de devoir prendre congé pour ce type d'histoire.
C'est certain. Pourquoi ça sortit aussi, c'est qu'il parlait qu'il avait fait un post sur les réseaux sociaux allant contre le parti à Vladimir Poutine et qu'ensuite, eux ont sorti ces allégations-là. C'est certain que, dit comme ça, ça peut sonner louche du côté de la Russie. Je pense qu'on va pas être capable pour l'instant de démêler ça. Puis justement, c'est le genre de moment un peu comme les Rangers ont pris parti derrière Panarin, mais que pour les... En tant qu'analyste, admettons, faut attendre d'avoir les résultats de ça avant de pouvoir se prononcer, parce que c'est certain que si c'était vraiment le cas, il n'y a pas d'affaire dans la NHL, puis je suis pas mal certain que n'importe quel DG ou n'importe quel joueur voudrait pas jouer avec lui ou l'avoir dans son équipe. Mais si c'est juste quelque chose qui a été inventé par la Russie, c'est difficile de se prononcer là-dessus et tant qu'on n'en sait pas plus, je pense qu'on va en rester là.
Ben justement, en fait, on vous a menti au début quand on disait que Tom était occupé au travail. En fait, on l'a envoyé en Russie pour couvrir la nouvelle.
Il y a que les KGB.
On n'a juste plus de nouvelles de lui depuis une semaine, mais on ne s'inquiète pas, tout va bien. Ok, on va trouver réponse à cette histoire-là. Je pense que c'est le temps de passer du côté de la nouvelle, en fait, la raison pour laquelle je crois qu'on se rassemble ce soir, mis à part notre segment de nouvelles puis notre classique podcast. Claude Julien, l'entraîneur, l'ex.
Toute une nouvelle.
Hein?
Toute une nouvelle quand même.
Toute une nouvelle, oui, oui, effectivement.
On l'avait prédit un petit peu il y a quelques semaines.
On l'avait pas juste teasé, on l'avait quand même mentionné. J'étais fier de nous parce qu'on avait évoqué le scénario, on avait expliqué pourquoi ce serait un scénario probable. Puis je dois dire que là-dessus, t'avais le dessus parce que t'as amené des points qui ont refait surface beaucoup aujourd'hui dans les médias. Chapeau.
Ben, j'ai appelé Bergevin après le podcast, j'ai dit « Regarde, écoute, on va donner des recommandations, puis fais-en ce que tu veux. » Puis finalement, il m'a écouté.
Exact, exact. Podcast indépendant, mais tu sais, je veux dire, on peut toujours aider notre équipe. Donc, Claude Julien a été laissé justement à la porte. On s'est départi de Claude Julien comme entraîneur-chef, ainsi que Kirk Muller comme entraîneur adjoint. Et c'est Dominique Ducharme qui va prendre les rênes de l'équipe, et ce, jusqu'à la fin de l'année. Donc, il y aura un rôle par
avec intérim. Burroughs.
Avec, oui, ça aussi, ça m'a surpris. En fait, Burroughs, qui était assistant à Laval, va monter comme assistant coach à Montréal. Donc, on va avoir un duo assez jeune d'entraîneurs. Je pense que Ducharme a 47 ans. Burroughs doit être pas mal plus jeune que ça encore. Réactions par rapport à cette nouvelle-là?
Je pense qu'on peut séparer la nouvelle en deux. Une première partie qui est pourquoi Claude Julien, qui va être un peu de réitérer ce qu'on avait dit dans le dernier podcast, pas le dernier, mais je pense qu'il y a deux podcasts. Et l'autre partie, c'est plutôt, ça va être quoi la relève de Claude Julien? Ça va être quoi le coaching staff? Est-ce que c'est qu'est-ce qu'on a présentement avec les coachs intérim? Est-ce que ça va être d'autres personnes? Donc, je pense qu'on peut commencer avec Claude Julien. Du côté de Claude Julien, les points que j'amenais la dernière fois, c'est que je trouve que son type de jeu était plus old school, on pourrait dire, que ce soit dans le dump and chase, que je trouve qu'il fit plus avec une équipe qui n'a pas nécessairement du star power, qui n'a pas de joueurs qui est capable de créer pour eux-mêmes et que justement, ça peut faire battre contre des meilleures équipes lorsque ton équipe est moins bonne. On l'a vu dans le passé fonctionner, tu sais, il a gagné une coupe avec Boston. Tout ça, c'est vrai, mais le jeu est de plus en plus rapide. Il y a de plus en plus des skills players, tu sais, qu'on voit des McDavid, des Matthews. C'est du monde qui sont capables de créer, c'est du monde qui vont être capables de vraiment faire la différence. Et maintenant, aussi, on l'a vu, c'était des jeux répétitifs qui amenaient. Et après 10 matchs, à chaque année, les premiers 10 matchs, on est comme « Ah, les Canadiens, ça va bien, on va gagner la coupe ». Ensuite, les équipes s'adaptent et tout ce qu'on fait pour changer, c'est changer des lignes, mais on garde les mêmes jeux. Exact. Et les équipes, puis c'est sûr, on n'a pas un McDavid, donc qu'on change la ligne ou non, ils vont pas adapter plus leur jeu, que ce soit Anderson ou Tatar qui s'en vient vers eux. C'est certain qu'ils n'ont pas le même skill set, mais dans le sens que ils savent c'est quoi la stratégie qu'on a, peu importe qu'est-ce qu'on change comme ligne. Et aussi, je pense que du côté de Claude Julien, quand on arrivait contre les équipes moins fortes, était pas capable de motiver son vestiaire assez pour nous garder compétitifs tout le temps. C'est certain que ce qui a été sorti aux nouvelles, c'est que c'est vraiment pas par rapport au vestiaire qu'il avait encore son vestiaire et que les joueurs avaient confiance en lui. Mais je pense qu'on avait besoin de renouveau dans le style de jeu. Je pense que c'est pour ça aussi que Kirk Muller est parti, qu'on parle d'avantage numérique qui est quand même dysfonctionnel depuis quelques années. Donc, je pense que ça va faire du bien d'avoir du renouveau. J'ai hâte de voir ce que Dominique Ducharme va être capable de faire, mais si on reste du côté de Claude Julien, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit capable de se retrouver un autre emploi dans la Ligue nationale. On en voit, là, il y a des équipes qui en auraient besoin, qu'on parle de les Jets avec Paul Maurice, qui sont jamais capables de vraiment avoir des saisons qui ont de l'allure. Ou même le Kraken qui va arriver l'an prochain. Donc, il va y avoir des postes qui vont être ouverts, mais on va en parler dans la deuxième partie. Il y a d'autres coachs qui pourraient vraiment être peut-être plus intéressants que Claude Julien dans ces postes-là. Mais je veux entendre ton côté, ton analyse du congédiement de Claude Julien.
Congédiement, ben, je pense que Claude Julien, ça va un peu être sa décision. Ben, en fait, c'est toujours sa décision s'il veut trouver un job ou prendre sa retraite. Mais il y a quand même eu des enjeux de santé dans la dernière saison, puis avec la COVID, puis l'incertitude, en fait, de la crise. Je serais pas surpris, en fait, que ça prenne un peu plus de temps là, avant qu'il reparte à la recherche d'un emploi. Tu sais, il coachait à Montréal, c'est super, il est au Canada, tout, mais partir loin de sa famille dans des situations comme ça où après ça, il doit s'isoler, il y a des problèmes cardiaques. Peut-être qu'il va vouloir prendre ce relax, puis ce serait vraiment cool pour lui aussi. Bref, l'avenir nous
le dira. Il a déjà gagné sa Coupe Stanley, tu sais.
Ouais, c'est ça. Il a eu déjà une carrière, une illustre carrière. Puis je pense, moi, ce que j'ai aimé, en fait, je vais séquencer mon analyse, là. Ce que j'ai aimé déjà en partant, c'est comment ça s'est fait. Ça n'a pas été un congédiement qui a mené comme à la pagaille, qui a mené un peu au branle-bas de combat. Je sentais que c'était très amical puis très respectueux. Je veux dire, Claude Julien, on n'a rien à lui enlever. Il a eu une carrière, une illustre carrière, comme je le mentionnais. Il a gagné une coupe. C'est juste peut-être plus le style de jeu qui va nous permettre d'en gagner une autre. Puis ça, c'est correct. Je veux dire, c'est comme tout dans la vie. Il faut que tu te réinventes des fois si tu veux continuer à être prolifique. J'avais vu en fait que Shea Weber était. Tu sais, Shea Weber, c'est quand même un leader silencieux. Là. C'est pas le genre de gars qui va s'exprimer vite dans les médias. Mm-hmm. Mais il y avait eu des commentaires pendant la dernière semaine, donc pendant la semaine de congé, comme quoi il y avait des problèmes internes qui commençaient à refaire surface. Puis je pense que c'est surtout en lien avec la motivation des joueurs face à des mauvaises équipes, comme tu l'as mentionné. Là. Je pense que c'est clair, tu l'as mentionné la semaine passée aussi, si tu n'es pas capable de motiver ton équipe à affronter des équipes médiocres, comment est-ce que tu peux t'attendre à être bien positionné au classement? Ça a refait surface, puis je pense que quand un Shea Weber comme ça, qui est habituellement très silencieux, se prononce, ben c'est peut-être indicatif justement qu'il est temps que les joueurs aient une nouvelle voix, un nouveau leader. Puis la dernière section que je voulais regarder du côté des coachs qui ont été laissés de côté, c'est Kirk Muller, qui est un icône quand même à Montréal, un ancien joueur avec nous. Après, il est devenu coach. Je pense que c'est un chouchou du public. Je voyais en fait beaucoup de questionnements à savoir pourquoi est-ce que Kirk Muller serait licencié, alors que je pense que Claude Julien, c'était pas mal la pièce maîtresse de ce move-là. Puis, je suis allé revoir, quand on a engagé Kirk Muller, avec les points de presse, puis avec les nouvelles, qu'est-ce qui ressortait, puis pourquoi est-ce qu'on est allé le chercher, puis c'était principalement pour gérer l'avantage numérique, tu sais, comme nous faire sortir d'une léthargie. Ça fait 10 ans qu'on a un avantage numérique médiocre. Puis, je suis allé revoir les stats aujourd'hui. Présentement, le Canadien occupe le 20e rang en supériorité numérique. Donc, je ne suis pas surpris, en fait, de voir que Muller, de son côté non plus, c'était peut-être plus le fit qu'on cherchait. Puis, tu sais, peut-être que aussi il ne voulait pas être l'assistant du champ. Ça se pourrait aussi. Là, je veux dire, il y a une sorte de hiérarchie et de politique là-dedans. Puis, du champ est plus jeune. En tout cas, ça, personne ne va vraiment pouvoir le savoir. Mais je pense que, tu sais, tant qu'à faire un changement, on va changer ce qui ne fonctionne pas. Puis, encore une fois, ça n'enlève rien à Muller, qui a une belle carrière à Montréal.
Ouais, puis c'est ça. Puis, faut avoir un style de jeu maintenant qui est capable de créer des tirs dans l'enclave. Souvent, le Canadien, dernièrement, que ce soit dans le dump and chase ou des tirs de la pointe, des tirs de l'aile, en essayant qu'il y ait un mauvais rebond du gardien. Puis, c'est ça qui crée notre avantage, je dirais, en mettant comme un Gallagher sur le bord du gardien, attendre le retour et essayer de scorer. Ou que ce soit en zone neutre, essayer de faire un revirement, créer un échappé, des choses comme ça. Mm-hmm. Je pense que ça fonctionne, mais maintenant, avec les skills qu'on a, que ce soit Jonathan Drouin, que ce soit Suzuki, maintenant avec la puissance de tir qu'on vient d'aller chercher avec Toffoli, Anderson, on a des joueurs qui sont capables de performer, puis il faut être capable de les laisser s'épanouir. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va être capable de faire avec Jonathan Drouin. Jonathan Drouin joue de mieux en mieux. On en a parlé dans les podcasts, mais en ayant un coach qui est capable de le laisser créer, je dirais, je pense que ça peut être encore plus intéressant à voir. Et pourquoi maintenant? Je pense que dans les 8 derniers matchs, on a 2 victoires. Je pense que c'était le temps. On a eu un bon début de saison, c'était le fun, mais là, 2 victoires en 8 matchs et tout ça incluant le retour d'une pause d'une semaine. Un bon coach est censé être capable de gagner en revenant de longue pause, être capable de faire des ajustements pendant cette semaine-là pour gagner. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Il a juste perdu. Donc, c'était le temps.
Puis j'aime qu'on lui ait laissé la pause aussi, tu sais, parce que je pense que Bergevin, il n'a pas pris la décision cette nuit, là. Je veux dire, c'était quelque chose qui mijotait depuis quelques temps. J'aime qu'on ait laissé la chance à Julien de prendre la semaine de congé, de jouer avec ses trios, de travailler en entraînement, puis après ça, on va voir deux games après cette semaine-là, voir si on est capable de provoquer un changement. Fait qu'encore là, ça revient dans la thèse que ça s'est fait dans le respect, ce congédiement-là. C'est pas... on est loin de Gérard Galland qui se faisait qui se faisait laisser de côté par les Panthers de la Floride sur le bord de l'aréna. Là, tu sais, c'est comme... c'est pas la même affaire. Là.
Parlant de Gérard Galland, je pense qu'on peut poursuivre avec la deuxième partie du licenciement de Claude Julien en parlant qui seraient les possibles nouveaux coachs pour le Canadien. C'est certain qu'à chaque fois que le Canadien cherche un nouveau coach, il y a la même question qui revient sans aucun doute à chaque fois. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un coach qui sait parler français? C'est difficile à dire parce que ça, c'est vraiment une opinion du public. C'est vraiment pas une décision hockey, on va se le dire. C'est vraiment une décision Montréal, le Canadien. Tu sais, on a eu des coachs que c'était pas leur langue maternelle, mais au moins, ils savaient parler en français. Donc là, avec le pool qu'on a de coachs de disponibles, est-ce que ça vaut la peine d'aller chercher le meilleur coach disponible, même s'il ne parle pas français, ou ce serait de regarder dans les options francophones? Parce que c'est certain que les options francophones, en ce moment, sont quelque peu limitées. On va se dire que une des options qui est assez clair, c'est garder du charme et Burroughs.
Oui, absolument. Si j'avais appris, là, je pense que c'est ça, en fait, qui va se produire.
Oui. Puis, mais... de ce côté-là, je suis vraiment d'accord parce que je suis tanné qu'on prenne un vieux coach puis qu'il ramène ses vieilles tactiques old school puis qu'il est rough avec les joueurs puis c'est comme, c'est même dans le temps qu'on gagnait des coupes, on va la gagner comme ça, let's go. Que ce soit, on peut penser à la Michel Therrien ou même Claude Julien, qui n'est pas nécessairement le même type d'entraîneur, mais ouais, Babcock. C'est pas ce type d'entraîneur-là que je veux voir. Puis les deux gros noms qui vont ressortir dans les meilleurs coachs disponibles, c'est plus des... Gérard Galland n'est pas très vieux, mais il a quand même de l'expérience dans la NHL. Puis sinon, il y a Brice Boudreau qu'on pourrait penser.
Je pense que disons là, que l'expérience du charme ne fonctionne pas. Je pense que, bon, c'est sûr qu'il y a un point de vue marketing qui est bon pour le Canadien d'aller chercher un coach francophone. Puis c'est définitivement une décision culturelle. Est-ce qu'on est rendu à avoir un coach anglophone? Personnellement, je pense que oui, mais ça, c'est mon côté. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais tu vois, je pense qu'on va être sélectif dans le... Si on allait apprendre un coach anglophone, on va être sélectif dans le coach. Bruce Boudreau, il n'y a aucun lien avec l'équipe. Versus Gérard Galland,
déjà coaché en 2013-2014, je pense, si je ne me trompe pas, comme assistant avec les Canadiens. Non, Gérard Galland.
Ah, c'est ça, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, Gérard Galland, le public l'aime déjà. Quand il est parti en Floride, on s'ennuyait de lui. Quand il est parti coacher à Vegas, on disait que c'était un des meilleurs coachs de la Ligue puis que, justement, on aurait aimé ça le voir monter. Donc, lui, je pense qu'il représente un candidat qui pourrait être considéré très sérieusement si l'expérience du champ ne fonctionne pas. Parce que je pense qu'on préfère tous un Galland à, justement, un coach francophone qui a peut-être pas l'expérience ou qui n'est pas du même niveau. Mais encore là, c'est ça, pour faire avaler la pilule au peuple québécois de prendre un coach anglophone, il faut qu'il y ait comme des racines un peu avec la culture.
Oui, justement. Et peut-être qu'il va être capable de sortir quelques mots en français si c'est celui qu'on décide d'aller avec. Pour ma part, vraiment, j'aimerais ça quand même à garder un coach francophone, pas sembler vieux jeu, mais je pense que, mettons, avec du charme qu'il y a présentement, qui amène un jeune coach avec Burroughs, que les deux, c'est vraiment un air de jeunesse et qui vont amener des nouvelles stratégies, un nouveau style de jeu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le Canadien avec autant de jeunesse à titre de coach. J'aimerais voir. Mais l'avantage qu'on a présentement, c'est qu'on peut continuer la saison avec ces gars-là, voir comment ça donne, et ensuite prendre une décision rendue à la saison prochaine. Parce que, oui, il y a des possibilités qu'on perde les meilleurs coachs disponibles, mais il va en avoir d'autres possiblement disponibles aussi qui vont avoir surgi. Donc, je pense que la meilleure décision à prendre, c'est d'essayer, faire l'expérience du charme, ouais. Parce qu'on l'a déjà, il est déjà là, il est engagé. Puis même si ça ne fonctionne pas, puis on décide d'aller dans une autre direction, mais on ne perd pas nécessairement ces gars-là parce que c'était un coach intérim. Donc, on y a pas dit, hey, c'est sûr, toi, tu vas être le coach en chef. Si jamais on engage un autre, mm-hmm. mais tu vas te faire envoyer. Donc, je pense qu'il y a autre que perdre la saison qu'on a présentement, si jamais ça ne marche vraiment pas avec du charme, il n'y a pas beaucoup de risques à y aller avec cette solution-là. Et si ça fonctionne, ben, on a un jeune coach dynamique qui est francophone en plus.
Ouais.
Donc, c'est comme le meilleur des deux mondes. J'aimerais qu'on, quand même, parce que là, on a parlé de Galant, on a parlé de Brice Boudreau. Pourquoi j'avais amené Boudreau? C'est dû à son style plus offensif, que peut-être qu'on voudrait un peu d'offensive avec le Canadien. T'sais, on est habitué à un style plus... justement, à la Galant, que oui, il est quand même d'apporter de l'offensive, mais qui est tout le temps plus responsable défensivement, mm-hmm. Qui est vraiment, je dirais, Galant, son style de joueur, irait à la Gallagher, des gars qui vont aller travailler dans un coin, qui vont être vraiment à la hargne. Tandis que Brice Boudreau, ses défensives, dans le passé, n'ont jamais été vraiment bonnes. C'est vraiment plus un talent offensif comme coach. Mais avec justement un Carey Price dans les buts et un gars comme Shea Weber qui est un défenseur d'expérience, Petrie qui est un défenseur d'expérience, je pense qu'on aurait peut-être, ce serait moins grave d'avoir un coach de ce style-là. Encore une fois, c'est pas les deux coachs que j'irais vers. Moi, je voudrais vraiment un art de jeunesse. Donc, admettons qu'on parle d'un coach anglophone, j'irais vers un Carl Taylor qui a gagné le coach de l'année dans la AHL l'an passé avec le club école de Nashville. C'est le genre de move que j'aimerais voir si jamais on ne va pas avec un coach francophone. Je ne sais pas pour toi si tu avais un autre nom à amener de ce côté-là.
Non, de mon côté, je pourrais jeter genre Bob Barclay dans le mix puis être comme hey, ce serait le fun que Bob
revienne. Ouais, c'est ça. Mais sinon, j'aimerais qu'on évalue les autres options francophones que du charme. Il y a ouais. beaucoup de personnes qui parlent justement de notre coach dans la AHL qui est Joël Bouchard. Joël et j'aimerais Bouchard, t'entendre oui. sur est-ce que tu verrais Joël Bouchard l'an prochain prendre le rôle de coach en chef avec le Canadien?
Écoute, je pense, je serais très surpris, ben, à moins que l'expérience du charme soit un flop total,
mm-hmm.
mais je serais surpris de voir un move vertical, Bergevin qui va chercher par exemple le coach du Rocket, qui le monte à la place de Duchamp puis met Duchamp comme adjoint. Je pense pas que c'est le meilleur move non plus, gestion de ressources humaines, mm-hmm. comme je pense qu'on perdrait Duchamp si on faisait un move comme ça. Ça me surprendrait, mais dans les deux cas, ce que je trouve excitant, c'est, je pensais à ça pendant que tu faisais ton analyse, puis on a enfin l'opportunité, avec ces deux gars-là dans la pipeline, de changer un peu notre statut à Montréal. Tu sais, on a le tag qu'on est incapable de développer nos jeunes, puis mm-hmm. c'est, je veux dire, c'est pas juste un billet de... d'effet récent, c'est pas juste par exemple là, Romanov qui perd du temps de jeu ou mettons Kotkaniemi qui prend un peu plus de temps à se développer ou Galchenyuk qui a été un flop. C'est une histoire qui se déroule depuis des dizaines d'années. Et puis, pour la première fois, on a un coach en chef en ce moment à Montréal qui a de l'expérience dans le World Junior, qui a eu du succès, qui a eu du succès à Halifax avec des jeunes. Puis, tu sais, toutes ces expériences-là, c'est tu prends des jeunes joueurs, tu les as pour une période de temps très mince. Là, tu sais, je veux mm-hmm. dire, le World Junior, c'est quoi? C'est 2 mois. Le junior, ben, les gars, ils restent 2-3 ans. Fait que tu les as pas pour longtemps, puis tu développes leur talent pour aller gagner justement le tournoi ou la coupe. Donc, je pense que ça, c'est une belle opportunité. Puis même chose du côté de Joël Bouchard, le gars que tu amènes, tu sais, il a eu du succès avec l'Armada. Là, il s'est installé avec le Rocket. Ça n'a pas été nécessairement facile avec le Rocket, surtout dans ses débuts.
Ben, avec le pool de joueurs qu'il y avait au début, le Canadien, ça fait juste quelques années qu'ils ont été vraiment agressif dans le draft avec beaucoup de choix. On a vu beaucoup, beaucoup de choix de deuxième ronde. Mm-hmm. Et oui, tu le repêches peut-être en 2016, 2017, 2018, mais les gars n'arrivent pas nécessairement tout de suite dans la AHL. Ils ne sont pas nécessairement prêts à jouer directement. Donc,
mais tu vois, Bouchard, il y a cette exposition-là aux jeunes depuis le début. Mm-hmm. Il les connaît, il sait comment ces gars-là jouent, il connaît leur tempérament de joueur. Puis peut-être qu'on va enfin avoir la chance, même si, disons là, qu'ils font un move puis que Ducharme devient entraîneur adjoint, entraîneur-chef du Canadien de Montréal d'ici 2 ans, mais on va encore avoir une chance, la chance d'avoir un entraîneur-chef qui sait comment développer des jeunes. Puis ça, on le sait, c'est pas nouveau. C'était vraiment pas la tasse de thé à Claude Julien. On l'a vu, par exemple, avec un Séguin. Il y avait eu beaucoup de problématiques dans le temps de Séguin, puis ils l'ont perdu pour pas grand-chose. Puis tu te dis, si seulement il l'avait développé, Séguin à Boston, je pense qu'il l'aurait pris, là, même s'ils ont une très bonne équipe. Fait que je trouve que c'est une belle opportunité. Maintenant, d'autres coachs québécois, est-ce que tu en avais en tête pour l'instant?
Ben, il y a toujours le même nom qui revient, et il a même été demandé en entrevue. Patrick Roy. C'est un peu drôle à parler comme ça, mais la première année qu'il était avec l'Avalanche Colorado, ça s'était bien passé. C'est après que ça a été plus difficile. C'est juste qu'il n'y en a pas un nombre bassin de coachs québécois qui seraient prêts à entrer dans un rôle d'entraîneur-chef. Il a été demandé en entrevue. Il a dit qu'il serait prêt. Okay. Mais ce ne serait pas la direction que j'irais, personnellement. Non.
Est-ce que tu as pensé à Guy Boucher?
Ah non, c'est vrai. Ça pourrait être intéressant.
Mais encore là, tu sais, je veux dire.
Je prendrais plus un virage vraiment nouveau, ouais, comme à la Ducharme. On dirait que je suis tanné qu'on aille reprendre un coach, que ça n'a pas fonctionné ailleurs, qu'on essaie quelque chose de nouveau. T'sais, on dirait que c'est tout le temps reprendre quelque chose qui n'a pas fonctionné et y aller à partir de ça. Non, j'aime mieux essayer un nouveau système. Au pire, ça foire, c'est pas grave. Mais j'y donnerais, t'sais, du temps. Puis je pense que Ducharme, Burroughs, c'est à voir, là, parce que je pense pas que lui, c'est peut-être qu'il va se faire remplacer d'ici là, mais Ducharme, ça serait vraiment la direction que j'irais. Puis comme je dis, un test, un an, on voit qu'est-ce que ça donne, et ensuite, si on a à changer, oui, possiblement d'y aller vers un des meilleurs coachs anglophones de disponible, mais pour l'instant, je pense qu'on a la chance d'avoir l'opportunité avec Ducharme, qui pourrait être juste le all-in, le gros prix. T'as un coach québécois francophone qui est jeune et pourrait rester avec nous pendant des années. Je pense que ça vaut la peine de faire l'essai.
Ouais, 100%. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter pour tes réactions suite au congédiement de Claude Julien et Kirk Muller?
Non, rien d'autre que s'ils nous écoutent, désolé d'avoir parlé comme ça de vous, mais c'était le temps pour une nouvelle chose, Claude. Qu'est-ce que je te dise? Prends soin de toi et fais attention à ta santé.
Je pense, Alex, on n'approche pas ça de la bonne manière. S'il écoute, envoyez-nous votre CV. Faites juste venir, on va prendre comme analyste.
Oui, c'est ça. On a toujours de la place là, dans le temps des REER, ça serait parfait. Là.
Toujours de la place. Alex, il vient de failli manquer d'électricité.
Oui, c'est ça. Vous pouvez voir en arrière de moi, il neige pas mal. Donc, si on se perd...
On ne sait pas si on va revoir Alex la semaine prochaine. Tom, c'est certain. Comme on commence à avoir un
besoin d'analyste, là, il y a un poste qui se libère.
Bon, fait que si vous n'êtes pas Claude Julien ou Kirk Muller, donc,
je vous invite à aller... Écrivez-nous pour un poste.
C'est ça. Envoyez-nous pas vos CV tout de suite. Comme. On va essayer de s'arranger. Mais je vous invite à aller suivre les réseaux sociaux, partager avec vos amis. Je ne sais pas si vous êtes... En fait, clairement, vous êtes au courant si vous l'écoutez sur notre Instagram. Mais on a commencé à partager du contenu vidéo, ce qui est un nouveau moyen, en fait, d'être en contact avec vous puis d'interagir avec vous. Donc, si ça vous tente de laisser un thumbs up ou de laisser un commentaire, nous donner votre avis justement sur le congédiement de Claude Julien, ça va nous faire un grand plaisir de vous répondre puis de vous lire. Sur ce, Alex, je te souhaite une bonne semaine. Je pense qu'on va se dépêcher parce que t'es clairement en train de manquer.
en espérant que je ne prends pas le courant.